RCFM, c'est votre jour de science. Fabrice Fenouillère, Christophe Zagaï.
Bonsoir Fabrice.
Bonsoir Christophe.
Ça va ?
Je suis en pleine forme. Et
comme d'habitude, bah oui, toujours en pleine forme. Bon. On apprend, on se divertit aussi. C'est notre jour de science et c'est chaque semaine un sujet, une thématique, un expert de la vulgarisation pour ce rendez-vous qui se veut, on le rappelle, Fabrice familial. Est-ce que vous êtes un rêveur ou bien un doux rêveur ? Je ne sais pas.
Un mauvais rêveur.
Bon.
Un mauvais coucheur aussi.
Bon, car nous allons évoquer les rêves cette semaine. Notre invitée Perrine Ruby, chercheuse en neurosciences, l'une des 20 scientifiques au monde à s'y intéresser. Nous allons la retrouver depuis son laboratoire de l'INSERM à Lyon.
Oui Christophe, et puis vous l'avez dit, aujourd'hui on a eu envie bien de mieux comprendre ce qui se passe dans notre cerveau lorsqu'on rêve. Alors, aux temps antiques, on pensait que c'était une porte d'accès au surnaturel, au divin et aux ancêtres. Que dit aujourd'hui la science ? Et finalement, à quoi ça nous sert de rêver ? À quel moment du sommeil ça se passe ? Est-ce qu'on est tous égaux en la matière ? Est-ce que c'est sérieux d'interpréter nos songes ? Bien, autant de questions passionnantes pour des réponses pas si simples, on va le voir, que nous allons donc poser à l'une des rares, un spécialiste, vous l'avez dit, Perrine Ruby, chercheuse INSERM, au sein de l'équipe dynamique cérébrale et cognition du Centre de recherche en neurosciences de Lyon, que l'on retrouve tout de suite en vrai et pas en rêve.
C'est votre jour de science, l'expert.
Bonsoir Perrine Ruby.
Bonjour.
Bonsoir Perrine.
Merci d'être avec nous. Est-ce qu'on peut définir ce qu'est un rêve ?
Oui, on en a tous une représentation subjective assez claire, je pense. Mais c'est vrai que quand il s'agit de le définir scientifiquement, c'est un peu plus difficile. Donc, un rêve, en fait, c'est l'expérience subjective qu'on vit pendant notre sommeil. Et après, pour pouvoir en dire plus, il faudrait pouvoir l'étudier de plus près. Et ça reste quelque chose d'assez compliqué.
Alors, dans le rêve, Perrine, est-ce qu'il y a surtout un sens qui est mis en avant ? Je pense par exemple à la vision. Ou est-ce que tous les sens sont développés de la même manière ?
Oui, ça fait partie des caractéristiques du rêve qui sont encore inexpliquées, puisqu'effectivement les sens ne sont pas représentés de manière équitable, puisque la vue est très dominante sur les autres sens, l'audition est assez représentée, mais tout ce qui est odorat et somesthésie est quasiment inexistant dans les rapports de rêve spontanés, et ça on ne sait pas l'expliquer.
Alors, pour revenir sur le rêve, vous nous décrivez en quelques secondes le cycle du sommeil. On parle de sommeil lent, profond, sommeil paradoxal, éveil, bref, c'est un petit peu compliqué. Vous pouvez nous resituer tout ça ?
Alors oui, rapidement, la seule chose importante à retenir, c'est que c'est important de dormir et il faut pas prendre sur ça quand vos journées sont chargées. Après, le sommeil, ça s'organise en cycle. Il y a plusieurs stades qui sont organisés en cycle de 90 minutes. Donc, on fait plusieurs cycles au cours de la nuit. Dans ces cycles, il y a du sommeil lent, léger et profond, et du sommeil paradoxal. On peut rêver dans tous les stades de sommeil. Ça, c'est très important. On rêve pas que dans un stade de sommeil. Et si on rêve tout au long de la nuit ou simplement au cours de certaines périodes de la nuit, ça, c'est encore pas clair.
Oui, parce que pendant longtemps, je crois que l'idée était passée qu'on ne rêvait que dans le sommeil paradoxal.
Oui, ça a été une idée, une hypothèse qui a été dominante pendant les 60-70 dernières années. Et maintenant, on sait bien que ça n'est pas le cas. Donc, on peut vraiment rêver dans tous les stades de sommeil.
Alors, pour le coup, vous venez nous dire, on peut rêver dans tous les stades de sommeil. Mais alors, Christophe m'a posé la question en introduction. Est-ce que j'étais un grand rêveur ? Christophe, vous êtes un grand rêveur ?
Oui, oui, exactement.
Ouais. Et alors, Perrine, on vous demande en tant que spécialiste, non pas si vous rêvez, mais pourquoi certaines personnes, par exemple, s'en souviennent mieux que d'autres ? Ça intervient au bon moment dans leur sommeil ou leur réveil ? C'est pour ça ?
Oui, ça c'est une bonne question pour laquelle on a un certain nombre d'éléments de réponse actuellement, mais pas tous, parce que effectivement c'est tout à fait différent de rêver ou de se souvenir de son rêve. C'est deux choses complètement différentes. Le problème majeur qu'on a avec le rêve, c'est qu'on n'a accès qu'au souvenir du rêve. Donc quelqu'un qui se réveille sans avoir de souvenir de rêve, en fait on ne sait pas si c'est qu'il n'a pas rêvé ou si c'est qu'il a oublié le rêve qu'il a fait. Donc c'est là où la science s'arrête, hein, c'est la limite méthodologique qu'on a actuellement. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est étudier les souvenirs de rêve et voir si la fréquence varie avec certains paramètres. Et on a vu qu'effectivement, quand il y a plus, notamment plus d'éveil au cours du sommeil, quand les périodes d'éveil sont légèrement plus longues, c'est-à-dire de 2 minutes plutôt que de 1 minute, ça a l'air de favoriser le souvenir du rêve.
D'accord.
Et ça va bien avec l'idée que pour qu'on se souvienne d'un rêve, il faut qu'on se réveille au moment où on est en train de le faire.
Alors ça, c'est quand même intéressant parce que ça veut dire que pendant la nuit, on s'en rend pas tous toujours compte, mais on a des réveils réguliers de 1 à 2 minutes.
C'est ça, et c'est tout à fait normal. Donc ici, je ne parle pas de gens qui dorment pas bien par rapport à des gens qui dorment bien. Hein. C'est parmi toutes ces personnes qui dorment très bien et qui ont des éveils au cours de leur sommeil qui sont complètement normaux, ceux qui ont des éveils un peu plus longs, ça vraisemblablement, ça favoriserait le souvenir de leur rêve.
D'accord. Et une question qu'on avait aussi avec Christophe en préparant cette émission, en sachant qu'on allait vous recevoir, on se demandait si, on l'entend beaucoup, hein, on apprend par exemple en nous diffusant une langue étrangère la nuit ou des musiques particulières ou des textes un peu complexes, des leçons par exemple pour des jeunes qui devraient les restituer le lendemain sur les bancs d'école. Est-ce que parce que c'est diffusé pendant la nuit et donc peut-être en rêve, on les enregistre ou ça ne consolide pas de cette manière-là?
Alors ça, c'est une très bonne question parce que effectivement ça marche pas du tout. Ce que fait le sommeil, c'est qu'il consolide quelque chose qu'on a appris la journée. Mais du coup, pendant qu'il fait ça, pendant qu'il consolide ce qu'il a appris la journée, eh ben il est occupé et donc il peut pas s'occuper d'enregistrer de nouvelles informations. Donc si vous passez des informations auditives, je sais pas quelle leçon à apprendre pendant que quelqu'un est endormi, en fait cette personne endormie, elle est occupée à consolider la journée d'avant, elle ne peut pas enregistrer des nouvelles informations pendant son sommeil. Et c'est ces observations, ces recherches-là qui ont amené les chercheurs à se dire, un rêve, c'est comme une nouvelle information qu'on présente pendant le sommeil. Donc, si on n'enregistre pas de nouvelles informations endormies, alors il faut se réveiller pour se souvenir d'un rêve. Donc, c'est effectivement ce qu'on a trouvé au laboratoire, c'est qu'on a cette corrélation. Donc, effectivement, le cerveau endormi s'occupe à consolider et traite très peu les informations entrantes.
Est-ce que chaque rêve a une signification? Alors, je prends l'exemple par exemple d'un collègue qui me disait, moi, il m'arrive de rêver d'une personne décédée dans ma famille. Alors, comment on pourrait interpréter? Alors, c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures, j'imagine, Perrine, mais comment on pourrait interpréter ce type de rêve?
Ça, c'est effectivement un rêve typique. Un rêve typique, c'est un rêve qui a déjà été fait par la majorité des gens qu'on interroge. Donc c'est un rêve qui est partagé par beaucoup de personnes dans la population. Et je pense que beaucoup de personnes qui ont vécu un deuil vous diront qu'elles ont rêvé de la personne qu'elles ont perdue. Le rôle que ça a, et si ça a un rôle, n'est pas encore très clair. On est en train de faire une étude à ce sujet-là en ce moment à Lyon. Mais l'idée, l'hypothèse sur laquelle on travaille, c'est qu'effectivement, le sommeil et le rêve ont un rôle dans la régulation émotionnelle et que le fait de rêver du défunt favoriserait l'évolution du processus de deuil.
Pour rester dans la signification des rêves, Perrine Ruby, alors je ne sais pas si c'est un rêve ou un cauchemar, parfois on a l'impression de tomber dans le vide, voilà, ou tomber du lit, ça, il y a une signification particulière?
Moi, en ce qui me concerne, je ne travaille pas du tout sur la question de l'interprétation des rêves. Mais effectivement, il y a certaines personnes qui proposent des interprétations. Il y en a aucune qui est validée scientifiquement. Ça ne veut pas dire qu'elles sont vraies ou fausses. Mais donc, je peux pas répondre à votre question. Moi, j'ai pas d'idée sur la question. Par contre, ce que je sais, c'est que très souvent, quand les gens tombent dans leur rêve, ils se réveillent avant d'atterrir.
Là, ça peut donner des indications, mais c'est vrai qu'il est important quand même de rappeler à nos auditeurs que une scientifique comme vous, quelqu'un qui rentre un tout petit peu dans la connaissance du cerveau de la personne, de l'être humain, est souvent assez éloigné des questions d'interprétation qui peuvent parfois, alors j'utilise vraiment des guillemets, c'est pas du tout péjoratif, se rapprocher de l'astrologie par exemple, c'est-à-dire à un moment donné de clés des songes qu'on voit beaucoup sur internet et qui permettent, vous l'avez dit en conférence à Galéa il y a pas longtemps, mais voilà, de trouver des explications. Puis chaque année, la clé des songes, quand c'est pas chaque jour, change pour rassurer ou pas, mais enfin ça peut être important pour des gens malgré tout, vous le dites aussi Perrine, de se réfugier peut-être ou d'aller vers l'interprétation.
En fait on comprend très bien que ça intrigue les gens et qu'on a envie d'avoir des réponses par rapport à cette expérience extrêmement bizarre et qui peut être déstabilisante. Après, vraisemblablement, au vu de ce que on sait, c'est y a que le rêveur qui peut trouver des clés. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans un rêve, c'est de voir la combinaison, en fait, de souvenirs que ça regroupe. Il y a que le rêveur qui peut savoir quels sont ses souvenirs et les questions que ça pose que le rêve les ait regroupés. Donc les Pour finir, ce que je veux simplement dire, c'est que l'interprétation du rêve ou la fonction du rêve, c'est deux choses qui sont différentes. Nous, ici, on travaille plus sur une éventuelle fonction. Et l'interprétation, elle est possible qu'on trouve une fonction ou pas au rêve. Et c'est pas parce que on pourrait considérer ça comme de l'astrologie que c'est une mauvaise idée de le faire.
Bien sûr,
si les gens apprécient, on n'y voit pas de contre-indication.
On va vraiment rentrer dans cette fonction du rêve dans notre deuxième partie.
Vous restez avec nous, bien sûr, c'est votre jour de science. Nous parlons des rêves, nous allons continuer à rêver dans un instant avec notre invitée Perrine Ruby, chercheuse en neurosciences à l'INSERM de Lyon.
France Bleu, RCFM.
Daydream Wallace Collection.
C'est votre jour de science, l'expert.
Vous ne leur échappez pas, vous dormez avec eux, ils dorment avec vous au choix, ils font partie de vos nuits. Nous parlons des rêves dans C'est votre jour de science. Fabrice, notre invité, la chercheuse en neurosciences Perrine Ruby à l'INSERM de Lyon, qui était à Galir, à Tahuzelach, il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques jours. Perrine, à quoi ça sert pour l'homme de rêver? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question?
Non, je ne peux pas répondre à cette question, mais par contre, c'est un peu une sorte de Graal actuellement. Il n'y a pas de territoire un petit peu de la conscience, de la psyché humaine qui reste si obscur actuellement. Donc c'est vraiment un des derniers territoires mystérieux et incompris. Et pour vous situer la question, en fait, le rôle, la fonction du sommeil, elle n'est pas encore élucidée actuellement. Alors, c'est on a cette intuition que on sait bien qu'en fait, si on ne dort pas, on finit par en mourir. Les études n'ont pas été faites chez l'homme, mais chez l'animal. Donc, on a vraiment ce sentiment que c'est capital, et on sait bien que si on ne dort pas bien, ça ne va pas bien la journée. Mais le sommeil a vraisemblablement de nombreuses fonctions, et on n'arrive pas à trouver la fonction princeps, ou c'est encore très débattu, la question de la fonction du sommeil. Donc c'est vous dire que le rêve, qui est lui beaucoup moins étudié, c'est encore bien plus compliqué. La seule chose qu'on peut imaginer, c'est que le sommeil et le rêve, c'est probablement les deux faces de la même pièce, donc leurs fonctions sont liées. Une des hypothèses actuelles sur laquelle on travaille, c'est que les deux soient impliqués dans la régulation émotionnelle.
Oui, ça c'est très intéressant, Périne. Et en même temps, j'imagine que nos auditeurs sont peut-être surpris, mais c'est vraiment génial de savoir qu'il y a encore la science qui échoue à comprendre totalement les choses. À quoi servent les rêves ? Eh bien, on ne peut pas répondre, et même une des seules chercheuses au monde, et vous en l'occurrence qui travaillez sur le sujet, ne peut pas être affirmative. Néanmoins, vous nous parlez de ces émotions, ça voudrait dire quoi ? Qu'en rêvant les choses, on est beaucoup plus calme quand on les vit réellement ?
Ça dirait plutôt que ça aide à digérer les expériences émotionnelles intenses. Donc, quand on vit quelque chose d'extrêmement désagréable ou de très positif, on en garde une trace souvent très précise. Mais par contre, ce que ferait le cerveau au cours du sommeil, ça serait, et du rêve probablement, ça serait de consolider ce souvenir. Donc, où est-ce qu'on était, avec quelle personne, les couleurs, toute l'ambiance perceptive, mais par contre, ça diminuerait, ça dissocierait l'expérience émotionnelle du souvenir sensoriel. Et donc, ça permettrait d'avoir ce souvenir qu'on peut rappeler sans revivre l'émotion telle qu'elle a été initialement, ce qui est très coûteux en énergie, et ce qui est désagréable quand c'est une émotion négative. Donc ça serait très adaptatif, en fait, ça serait écologique. On pourrait garder le souvenir de ça, il faut le faire parce que ça fait une émotion positive, il faut pas le faire parce que ça fait une émotion négative, mais c'est une connaissance qu'on a, et on n'aurait pas le coup de l'émotion quand on se le rappelle. Donc ça pourrait être... on a beaucoup d'arguments pour dire que le sommeil fait ça. Dans quelle mesure le contenu du rêve est associé à ce processus qui se passe pendant le sommeil, là on a moins d'arguments, mais on est en train de travailler sur cette hypothèse actuellement, et ça semble assez plausible.
Justement, dans vos travaux, Périne, est-ce qu'on remarque, parce que chacun a en tête des rêves complètement farfelus qu'il a pu faire, hein, où il n'y a rien qui se tient.
Fabrice, n'est-ce pas?
Ouais, je ne suis pas dit érotique, je dis farfelu, Christophe. Vous me regardez avec des gros yeux. Non, mais où des trucs ne se tiennent pas du tout, quoi, hein, des choses qui n'ont pas de sens. Alors, pour autant, les études montrent-elles qu'on rêve quasiment toujours de choses qu'on a vécues ou qu'on connaît ou qui sont tangibles?
Oui, ce qui est intéressant, en fait, un des résultats récents qu'on a obtenu qui est très encourageant vis-à-vis de cette hypothèse d'un rôle du sommeil et du rêve dans la régulation émotionnelle, c'est que on sait bien que on rêve de ce qu'on vit, de ce qu'on est. Il y a beaucoup de nos souvenirs qui sont incorporés dans nos rêves. Et on a constaté que quand on rêve d'une expérience qu'on a vécue, en fait, l'intensité émotionnelle de cette expérience dans le rêve, donc la version rêvée, est moins intense émotionnellement. Donc là, ça colle bien avec cette idée que quand on rêve d'une situation de la vie éveillée, eh ben, le rêve diminue l'intensité émotionnelle, et probablement il réussit à faire ça en mélangeant l'expérience initiale avec d'autres expériences, et en rendant le rêve bizarre, en fait. Ça permet de dissocier, changer le contexte. Donc probablement que la bizarrerie est un des mécanismes qui permettent de diminuer l'intensité émotionnelle.
Alors, il y a le rêve et puis il y a le cauchemar. Alors, est-ce que le cauchemar, ce n'est rien d'autre qu'un mauvais rêve, Périne Ruby ?
Oui, en fait, un cauchemar, c'est un rêve avec une émotion négative. La définition stricte du cauchemar, c'est un rêve avec une émotion négative qui vous réveille. Après, il faut savoir que chez l'adulte, les cauchemars sont extrêmement rares. Et s'ils ne le sont pas, ça vaut pas la peine de rester comme ça, parce que il y a des solutions qui fonctionnent très bien pour diminuer les cauchemars. C'est pas une bonne idée de rester avec des cauchemars réguliers, parce que ça finit par par abîmer votre sommeil. Et puis, c'est pas la peine de vivre des émotions tout à fait désagréables au cours de son sommeil quand on peut les diminuer ou les éliminer de manière non médicamenteuse avec des techniques cognitivo-comportementales, par exemple, qui fonctionnent très bien. Donc, sachez ça, ne restez pas avec des cauchemars, vous pouvez vous en débarrasser.
On prendra ça au pied de la lettre. Et tout à l'heure, vous nous disiez que les scientifiques ne pouvaient pas s'autoriser à dire qu'une interprétation de rêve est solide face aux études. Est-ce qu'il en est de même pour les rêves prémonitoires? Que dit la science par rapport à eux?
Eh bien, du coup, le rêve, j'ai envie de dire classique, est déjà lui-même très peu étudié. Donc, les ouais. rêves prémonitoires, on est loin de les étudier actuellement. Mais c'est un phénomène qui est très intéressant et qui revient systématiquement à chaque fois que je fais une conférence. Donc, c'est un phénomène qu'on ne peut pas nier dans le sens où il y a vraiment un ressenti vécu par les gens de faire des rêves prémonitoires. Alors la question de est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, est-ce que le mot est adéquat, pas adéquat, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est un phénomène qui est vraiment vécu comme tel par de nombreuses personnes. Du coup, ça serait très intéressant à étudier, mais malheureusement, ça n'a pas été encore fait.
Est-ce que le rêve lucide a le vent en poupe?
Ah oui, tout le temps, toujours.
Alors peut-être le définir aussi, hein, ce rêve lucide, Perrine.
Oui, le rêve lucide, c'est un rêve simplement au cours duquel on prend conscience qu'on est en train de rêver. Et du coup, il y en a certains qui arrivent à plus que d'en avoir conscience, à prendre le contrôle de certains éléments du rêve. Et ça amuse beaucoup les gens. C'est un côté très ludique et ça fait un petit peu une impression de jeux vidéo immersifs avec toutes les dimensions possibles, toutes les dimensions sensorielles possibles, et puis surtout avec cette dimension où on vit des sensations pour de vrai, et puis on a l'impression que c'est vrai. Donc effectivement, ça attire beaucoup les gens. Pour autant, le rêve lucide, ça s'entraîne difficilement, et pour l'entraîner, ça induit de déstructurer son sommeil, puisque les méthodes recommandent beaucoup de se réveiller plusieurs fois par nuit. Et ça, c'est une très mauvaise idée de déstructurer son sommeil. C'est une très mauvaise idée de pas dormir d'une traite. Donc, je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle. Bon. Moi, je ne le recommanderais pas personnellement.
On n'achètera pas sur Internet les casques qui permettent de se réveiller en plein rêve pour pouvoir les maîtriser. Mes enfants m'ont dit que ça existait, ça m'a fait peur. Oui. Perrine, vous disiez tout à l'heure que le rêve, tout comme la conscience en réalité, sont un des derniers tombeaux violés de nos êtres. Est-ce que malgré tout, on n'a pas entendu parler de Japonais qui essayaient de voir ce qui se passe chez nous en nous mettant des électrodes plein la tête?
Oui, il y a des collègues japonais, effectivement, qui ont fait ce pari de se dire si on prend l'activité cérébrale de quelqu'un qui est en train de dormir, donc si on enregistre cette activité cérébrale en temps réel, est-ce que ça nous permettrait pas, en fait, d'en déduire ce qu'il rêve? Donc on prendrait, si on connaît bien le fonctionnement du cerveau, on peut, si on sait l'activité du cerveau quand on voit un visage, par exemple, on pourrait se dire qu'on peut faire le chemin dans l'autre sens, c'est-à-dire que connaissant l'activité du cerveau, peut-être qu'on pourrait revenir à l'image. Donc, ils ont essayé de faire ça. Et ils ont fait une preuve de concept, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à extirper quelques toutes petites informations du cerveau endormi. Ça, c'était remarquable. Mais l'ordre de grandeur des informations, si vous voulez, c'était, ils étaient capables de dire dans 90% des cas si les participants avaient rêvé plutôt à des objets ou plutôt à des personnages. Donc, c'est vous dire que bon, on est loin de pouvoir voir le contenu du rêve de quelqu'un à son insu pendant qu'il est endormi.
Bon, et tant mieux.
Merci beaucoup Perrine Ruby d'avoir été avec nous pour cette émission consacrée aux rêves. On rappelle que vous êtes chercheuse en neurosciences, l'une des 20 scientifiques au monde à s'intéresser aux rêves. Vous travaillez donc à l'INSERM de Lyon. Merci beaucoup et puis à très vite sur RCFM mais aussi au Parc Galet.
Merci à vous.
Merci Perrine.
À bientôt, au revoir.
C'est votre jour de science dans l'actu.
Fabrice, il paraît que vous avez une histoire de bouton à nous raconter ce soir.
Ça m'énerve parce qu'à mon avis, vous avez louché sur ma feuille.
Pas du tout.
Ah non, pourquoi vous avez la thématique alors?
Pas du tout.
Bon. Non, moi, ce que je suis obligé de faire dans un premier temps, que ça vous plaise ou pas, parce que c'est vous qui pilotez cette émission, c'est un aveu et vous dire officiellement que je suis très jaloux. Allez. De votre visage de poupon,
ah oui.
De votre peau si lisse, d'une régularité déconcertante, n'ouvrant la porte à aucune ride mal placée.
C'est vrai.
Avouez-moi, avouez-nous, avouez aux auditeurs que, adolescent, Vous étiez plein d'acné.
Non.
C'est pas possible. C'est pas possible parce que les scientifiques viennent de découvrir que l'hypersécrétion de sébum, pour ne pas dire avoir des boutons plein la figure quand on est ado, pouvait être une bonne chose pour plus tard. Car en fait, sur le long terme, les anciens acnéiques ont une peau qui vieillit beaucoup moins vite que la moyenne. On vient en effet de comprendre, allez, c'est un peu technique, que les personnes qui ont des télomères plus longs, les télomères c'est une histoire de répétition d'ADN sur les chromosomes, eh bien ces personnes ont plus d'acné que les autres. Et comme on sait depuis très longtemps que des télomères plus longs, c'est résister à la vieillesse, alors on peut en déduire que qui a de l'acné adolescent aura une peau bien moins ridée dans 30 ans. Donc, pour les parents qui nous écoutent et qui auraient des ados accros, bien malgré eux, à l'eau précieuse, rassurez-les tout de suite en leur disant que si pour l'instant, c'est pas la joie, une fois adultes, comme vous Christophe, ils feront des envieux.
Ben voilà, vous avez changé le week-end de pas mal de nos auditeurs. Fabrice, après cette info, ben vous aurez peut-être envie d'être un mouton, ou du moins vous allez les envier. Savez-vous que les moutons ont des talents sociaux ?
Je suis un mouton.
Voilà, alors quand on pense aux créatures intelligentes, les moutons, c'est vrai qu'ils n'arrivent pas souvent en tête du palmarès, mais les chercheurs ont changé cette perception en montrant que ces animaux pouvaient être très branchés sur le végétariat, figurez-vous. Alors en fait, ils seraient capables de reconnaître des visages humains, presque aussi bien que les humains. Dans le cadre de l'étude qui a eu lieu à l'université de Cambridge, en Grande-Bretagne, les chercheurs ont entraîné les moutons à reconnaître les visages de quatre célébrités, notamment celui de Barack Obama, l'ex-président des États-Unis. Alors les chercheurs ont d'abord entraîner les moutons à associer ces visages à une récompense. Les bêtes devaient placer leur museau sous la bonne image lorsqu'on leur offrait le choix entre une case noire et une photo de la personne célèbre. Les chercheurs ont ensuite augmenté la difficulté en remplaçant la case noire par le visage d'une personne inconnue. Et puis finalement, ils ont commencé à utiliser des photos différentes de la célébrité, allant parfois jusqu'à la présenter de profil. Malgré tout, Fabrice, les moutons reconnaissent leur idole qu'à 79% du temps. Hein, ce ne sont pas les seuls animaux capables de distinguer les visages humains, les chimpanzés, même certains oiseaux, hein, tels que les pigeons ou les corneilles, en sont aussi capables. Qui sait, Fabrice, hein, reconnaîtront-ils un jour votre visage avec ou sans acné ?
Je suis sûr que vous étiez dans les quatre et pas de profil.
C'est votre jour de science. Ça se passe chez nous.
Allez, un rendez-vous imminent, Fabrice, pour tous les passionnés de musique et de cosmos. C'est demain au Parc Galais à Tahuizoulach avec la réception à 15h de l'astrophysicien Jean-Philippe Usan sur le thème de l'harmonie de l'univers.
Oui, demain, c'est une conférence surprenante, en fait, hein, entre science et musique, qui va lier astronomie, mathématiques et de vrais sons venus du confin de l'espace, aux côtés, vous l'avez précisé, de Jean-Philippe Usan, qui est l'un des plus grands astrophysiciens français, hein, lorsqu'il s'agit d'expliquer la complexité de l'univers avec des mots simples. Une rencontre pour toute la famille, avec la mélodie des pulsars, le rythme d'ondes gravitationnelles, les crépitements quantiques, le chant des étoiles qu'on va écouter, et même les vibrations de l'espace jusqu'au Big Bang.
Voilà, c'est demain donc à 15h au Parc Galais à Tahuizoulach. Merci Fabrice.
Merci Christophe.
À la semaine prochaine.
Ciao.
On réécoute bien sûr cette émission à volonté, les amis, hein, sur bleurcfm.com. Et un grand merci à Patrick Besseron qui était à la réalisation ce soir. Bonne azère à toutes.